Examen du budget de la Nouvelle-Calédonie au Congrès, nouvelle visite de Manuel Valls sur le territoire. C'est une semaine très riche qui va s'ouvrir demain. Les détails dès le début de ce journal. À la fin du salon Habitat Déco, pendant 3 jours, les Calédoniens ont pu découvrir ou redécouvrir près de 140 artisans et le bilan est plutôt encourageant. À l'ouverture demain en Arabie Saoudite de négociations entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des États-Unis. L'Ukraine qui affirme être prête à un cessez-le-feu complet. Environ 90 000 personnes ont défilé dans plusieurs villes contre le racisme et le fascisme. Les rassemblements se sont globalement bien déroulés, mais des slogans haineux envers la police ont choqué. Le sport, la Formule 1, l'Australien Oscar Piastri sur McLaren en pole position du Grand Prix de Chine. Il aura à ses côtés sur la première ligne la Mercedes de George Russell. Le départ sera donné dans un quart d'heure. Et puis les mini-jeux du Pacifique dans la ligne de mire des archers calédoniens. La Ligue calédonienne de tir à l'arc prépare sa sélection pour le rendez-vous de Palau. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Il faudra faire des efforts. C'est la philosophie du budget primitif 2025, adopté jeudi par le gouvernement. Budget qui prévoit, vous le savez, un certain nombre d'efforts, étant donné la situation des finances publiques 10 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles. Un budget qui a été détaillé par Thierry Santa, en charge des finances et du budget, et qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé juste après ce journal. C'est une semaine très importante pour la Nouvelle-Calédonie qui va s'ouvrir dans quelques heures. Nous allons feuilleter avec vous, Michael Juneski, les pages de l'agenda de la semaine qui va donc commencer.
C'est en effet vendredi que les élus du Congrès se retrouveront boulevard Vauban pour une séance publique. À l'ordre du jour, l'examen des budgets primitifs 2025 de la Nouvelle-Calédonie. Les élus examineront successivement le budget primitif de reversement, le budget primitif de répartition et le budget primitif propre. Les élus sont convoqués à 8h et la séance devrait durer toute la journée. Semaine importante pour l'économie mais aussi pour l'avenir institutionnel puisque c'est en fin de semaine que Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, doit revenir sur le territoire pour une nouvelle séquence de discussion avec les élus calédoniens sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Si aucune date n'a encore été confirmée par les services de la rue Oudinot, Manuel Valls devrait toutefois arriver en Calédonie samedi prochain.
Et nous parlions du budget de la Nouvelle-Calédonie il y a un instant. Deux autres collectivités examineront le leur la semaine prochaine. La province des Îles, ce sera mardi, et la ville de Nouméa, mercredi, en fin d'après-midi. Demain, lundi à 10h, Manuel Van Aschkot, le directeur diocésain de l'enseignement catholique rencontrera la presse pour une déclaration solennelle afin d'évoquer les enjeux liés au financement de l'enseignement catholique. Dans l'actualité de la semaine qui va débuter, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui présentera sa plateforme internet baptisée Pétition citoyenne, qui se veut un espace public d'expression. Dans l'actualité syndicale, la FEDE tiendra jeudi et vendredi un colloque consacré à son plan de refondation sociale et solidaire. Enfin, le week-end prochain, l'ACAPA, l'Association calédonienne d'aide aux personnes âgées, organisera son grand loto annuel. Ce sera dans ses locaux du Faubourg Blanchot. Enfin, dimanche prochain, la métropole passera à l'heure d'été. Le décalage horaire entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole passera de 10h à 9h. Et puis un rendez-vous à noter sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Demain, à 7h30, c'est Raphaël Romano, le président de l'association Un Cœur, Une Voix, qui sera notre invité du matin. Au chapitre des faits divers, un début d'incendie à la station Shell des Portes de Fer ce matin. Aux environs de 4 heures, les sapeurs-pompiers de Nouméa ont dû intervenir alors qu'un feu a été localisé au niveau d'un congélateur dans l'atelier de la station. Le sinistre a pu être très rapidement maîtrisé. 5 véhicules ainsi qu'une 20aine de soldats du feu ont toutefois été dépêchés sur place. Le magasin de la station n'a pas été touché. Une enquête est en cours. Elle devra déterminer les causes de ce début d'incendie. Forte affluence au salon Habitat Déco ce week-end. Plus d'une centaine d'artisans étaient réunis depuis vendredi à Nouville. Les Calédoniens sont venus en nombre pour soutenir l'économie locale, Charlotte Coulson.
Il y en avait pour tous les goûts, de la décoration, des équipements ménagers pour l'intérieur, mais aussi des piscines, des decks ou des panneaux solaires pour les plus gros investissements. Et les visiteurs ont particulièrement apprécié ce vaste choix de stands et cette diversité de produits et services proposés.
C'est la première fois qu'on est revenu depuis les émeutes et là c'est le premier week-end où il fait beau, donc on est revenu et il y a beaucoup de monde et on a retrouvé plein de choses qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et ça c'est sympa. J'ai un super endroit pour venir chercher des petits créateurs et j'ai voulu acheter un petit créateur. Faut les aider aussi donc voilà.
Pour faire une sortie familiale et voir un petit peu tout ce qui est artisanat, art de la maison et on n'est pas déçus. Un regroupement sympathique de plein de professionnels et c'est vraiment très bien.
On recherchait à investir pour les batteries sur le panneau photovoltaïque pour le long terme. Typiquement ça recense en fait toutes les personnes qui font ça, donc on se disait qu'on allait trouver pas mal d'offres pour peut-être une acquisition dans l'année, on verra selon les tarifs.
Un enthousiasme qui a réjoui les artisans présents au salon. Pour beaucoup d'entre eux, les mois passés, voire encore ceux à venir, sont compliqués économiquement. Le salon Habitat Déco leur offre donc de la visibilité et pourquoi pas une nouvelle clientèle.
Alors nous, c'est Happy Distribution, des produits qui viennent d'ici et d'ailleurs. C'était tranquille pour vendredi, je pense, parce que les gens travaillent. Mais à partir d'hier, ça va. Ça fait plaisir à voir que les gens y sortent. En plus, il fait beau. Ça fait une différence de faire les salons. Oui, on voit que les gens, ils sortent, ils jouent le jeu, ils sont là, ça fait plaisir.
Je suis Alison Fardeau, la directrice de Café Royal Pacifique. Ça fait 3 jours que nous sommes à la Maison des Artisans. Alors on est très, très satisfaits du salon en termes de visibilité, en termes de clientèle. Et on est vraiment satisfaits de ce salon.
Et pour d'autres artisans, le bilan a été plus mitigé. La relance se fait lentement. Ils restent globalement très satisfaits de la visibilité qu'a pu leur apporter ce rendez-vous, organisé, je le rappelle, par la Chambre des métiers et de l'artisanat.
C'est votre banquier qui va être content. La période des soldes d'été, c'est terminé. Depuis un mois, les boutiques ont bradé moins 10%, moins 20%, moins 50% sur leurs marchandises. Une période généralement attendue, des vendeurs comme des consommateurs d'ailleurs. L'occasion pour les uns, évidemment, de déstocker, pour les autres, de faire de bonnes affaires. Et sans surprise, cette année, la clientèle a été plutôt timide. À la suite des émeutes de mai 2024, les Calédoniens n'ont plus le même budget que les années précédentes. C'est le constat que dressaient ce matin des vendeuses rencontrées dans le centre-ville de Nouméa.
Alors, je m'appelle Sabrina et je travaille à Connect Multimédia dans le quartier Alma. Alors, ça a été relativement calme quand même, une période très très calme. Franchement, on voit quand même que les budgets ne sont plus les mêmes. Là, les derniers cris qui sont arrivés en téléphone, ben avant, ça partait très très vite et là, ça part moins bien, quoi.
Le premier jour des soldes, ça s'est bien passé. Et là, en fait, on a continué jusqu'à la fin du mois. Maintenant, regarde, il n'y a plus personne, en fait. C'est plus comme avant.
Au tout début, ça a été un peu difficile, parce que les gens n'ont pas trop les moyens. Mais après, avec les remises, ben, ça s'est bien passé quand même. Bon, on est parti jusqu'à la dernière des marques, moins 60%. Du coup, voilà, ça a ramené un peu plus de clientèle au magasin.
Et notez que la prochaine période de soldes, les soldes d'hiver, aura lieu du 30 août au 28 septembre. Les dates du Black Friday ont également été fixées pour cette année 2025. Ce sera du vendredi 28 novembre au dimanche 30 novembre. L'actualité dans la région Pacifique à présent. À Canberra, le gouvernement albanaisi a été invité à obtenir des éclaircissements de Washington à la suite d'informations selon lesquelles l'administration américaine s'apprête à annuler des fonds de recherche qu'elle accordait jusqu'à présent à 7 universités australiennes. Les détails avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Ces 7 universités percevaient chaque année des USA une somme équivalente à 42 milliards de nos francs. Leurs chercheurs ont récemment reçu une note de Washington leur demandant de justifier pourquoi ils doivent continuer à recevoir des subventions américaines dans le domaine de la recherche. La même note les invitait à révéler s'ils ont perçu des financements de la Chine et si leur université reconnaît uniquement 2 sexes, à savoir masculin et féminin. Le Bureau américain de la gestion et du budget a déclaré que l'aide financière accordée aux chercheurs australiens était un gaspillage de l'argent des contribuables et a ajouté que la priorité des dépenses fédérales irait, je cite, « à la volonté du peuple américain ». Un porte-parole du ministre australien de l'Éducation, Jason Clare, a déclaré en réponse que le gouvernement albanaisi continuera de plaider en faveur de la poursuite de la collaboration australo-américaine sur des projets de recherche importants. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 17h54, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Et la suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, les discussions, les négociations pour obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine vont reprendre demain en Arabie Saoudite. Des négociations 3 ans après le début de la guerre en Ukraine qui se dérouleront sous l'égide des États-Unis. Geoffrey Brongier pour Europe 1.
Que ce soit du côté des Ukrainiens, des Russes ou des Américains, tous espèrent que ces discussions feront avancer la situation vers un cessez-le-feu, comme expliquait plus tôt Grigory Karasin, l'un des deux négociateurs du Kremlin, interrogé par la chaîne de télévision russe Zvezda.
Nous sommes dans un état d'esprit combatif et constructif. Nous espérons réaliser des progrès avec ces discussions. Il sera difficile de traiter tous les sujets à l'ordre du jour, mais nous partons du principe que nous devons en résoudre au moins quelques-uns.
Une déclaration encourageante mais prudente. De nombreux sujets doivent être abordés, notamment celui d'une trêve sur les attaques visant les infrastructures énergétiques dans les deux camps. Pour Steve Witkoff, l'émissaire américain, une autre question devra être tranchée prochainement pour mettre fin à cette guerre.
Je pense que le principal problème dans ce conflit, c'est la question de ces 4 régions, le Donbass, la Crimée, et il y en a 2 autres. Là-bas, ils parlent russe, il y a eu des référendums, lors desquels l'immense majorité de la population a indiqué vouloir être sous autorité russe. Je pense que trancher ce problème sera la clé pour mettre fin à ce conflit.
Des propos qui rapprochent un peu plus les États-Unis de la position russe. Steve Witkoff explique quand même que Vladimir Poutine n'est pas un mauvais type. Kiev, de son côté, n'a pas encore réagi à ces déclarations de l'émissaire américain.
Geoffrey Brongier du service international d'Europe 1. En bref, le pape François va sortir de l'hôpital. Il avait été admis il y a 5 semaines maintenant à l'hôpital Gemelli de Rome pour une double pneumonie. À 88 ans, le souverain pontife va donc retrouver son appartement de la maison Sainte-Marthe au Vatican, où il restera en convalescence pendant au moins 2 mois. C'est ce qu'a indiqué ce matin le service de presse du Vatican. Le Saint-Père qui, avant de quitter l'hôpital, fera une apparition publique. Ce sera à l'occasion de la prière de l'Angélus. L'actualité en métropole. Environ 90 000 personnes ont défilé dans plusieurs villes contre le racisme et le fascisme à l'appel de la France insoumise et de collectifs d'ultra-gauche. Les rassemblements se sont globalement bien déroulés, dans le calme, mais des slogans entendus dans certains cortèges ont profondément choqué. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Dans les rues de Paris, de Toulouse ou encore de Lyon, plusieurs slogans anti-Israël ont d'abord été entendus dans les cortèges.
Israël, assassin!
Israël assassin, Macron complice, crient les manifestants qui n'ont pas non plus épargné les policiers, visés par de nombreux slogans contre leurs fonctions. Tout le monde déteste la police, un slogan maintes fois répété hier dans les cortèges et que Laurent Nunez ne veut pas laisser passer. Le préfet de police de Paris a promis des sanctions hier soir sur BFM TV.
Évidemment, ce sont des slogans haineux, qui sont des slogans de la honte. Il y avait aussi des pancartes sur les slogans, y compris dans le cortège des syndicats et des organisateurs. On va regarder tous les slogans et on va saisir la procureure de la République de tous les slogans qui ont dépassé la ligne rouge et qui rentrent sous le coup de la loi pénale.
Plusieurs tags injurieux envers les policiers ont aussi été retrouvés sur les murs de la capitale après le passage des manifestants. Selon Laurent Nunez, 2 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles hier après-midi à Paris.
Et des slogans haineux aux actes, il n'y a malheureusement parfois qu'un pas qui a été franchi hier avec cette agression antisémite à Orléans. Le rabbin de la ville a été violemment frappé devant la synagogue de la ville et sous les yeux de son fils. Une agression en plein jour dénoncée par Jonathan Arfi, le président du CRIF. C'est le conseil représentatif des institutions juives de France.
J'ai ressenti une immense colère parce que c'est une agression antisémite de plus, particulièrement lâche et particulièrement violente, mais pas de surprise parce que le climat qui règne aujourd'hui dans notre pays, malheureusement, conduit à ce genre d'actes. Nous avons vu depuis le 7 octobre 2023 une multiplication des agressions antisémites. Le climat qui aujourd'hui s'est installé dans notre pays, c'est un climat qui d'une certaine manière minimise, voire parfois justifie l'antisémitisme. L'hystérisation du débat public autour de la question de Gaza par la France insoumise participe de ce climat et contribue à légitimer les passages à l'acte. Les discours de la France insoumise font aujourd'hui partie du problème.
Jonathan Orfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. L'actualité en métropole, ce sont aussi ces chiffres pour le moins inquiétants. En 2024, les douanes ont saisi près de 111 tonnes de produits stupéfiants, dont presque 21 tonnes de cocaïne, soit une hausse de plus de 74% par rapport à 2023, Michael Juneski.
Oui, au total, avec l'ensemble des services de police et de gendarmerie, mais aussi la marine, les autorités françaises ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 130% comparé à 2023. L'an dernier, les services douaniers ont également saisi plus de 21 millions d'objets contrefaits, un chiffre en hausse pour la cinquième année consécutive, selon le bilan annuel des douanes qui sera présenté officiellement demain. Outre les stupéfiants et les objets contrefaits, les douaniers ont saisi plus de 488 tonnes de tabac de contrebande sur l'ensemble du territoire en 2024. Un trafic en plein essor. Les services douaniers avaient saisi 521 tonnes de tabac en 2023, après le record déjà de 2022, et c'est 649 tonnes. Rappelons qu'il y a quelques semaines, ce sont 46 tonnes de cigarettes de contrebande qui avaient été saisies par les services des douanes de Nouvelle-Calédonie. Sur le volet des armes, les saisies douanières sont aussi conséquentes. Sur les 603 000 armes, munitions et parties d'armes saisies, 881 sont des armes à feu, dont 150 sont des armes de guerre. La proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic actuellement examinée à l'Assemblée nationale va permettre de frapper plus vite et plus fort, a indiqué dans un entretien publié sur le site du Journal du Dimanche la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. En matière de saisie, le gel administratif déjà utilisé contre le terrorisme devrait être adopté et pérennisé par nos services contre le narcotrafic, a également indiqué la ministre.
Venons-en à présent à cette initiative à la voix sérieuse et drôle. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis mènent, on le sait, une politique de taxation très agressive. Le président américain a menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur le champagne et les vins français et européens. Il y a quelques jours. Pour tenter de réagir symboliquement, évidemment, Régis Banquet, le président de Carcassonne Agglo, a décidé d'envoyer à Donald Trump une lettre, mais aussi une caisse de vin de sa région, une caisse de vin pour convaincre le président des États-Unis de la nécessité d'acheter du vin français. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Oui, c'est avec humour et une pointe d'ironie que 6 bouteilles de vin ont été envoyées à Washington. Une réaction, vous le disiez, au projet de Donald Trump de taxer à 200% les produits alcoolisés européens. Si pour le moment cette idée reste une menace, les conséquences se font déjà ressentir. Selon les viticulteurs de l'Aude, certains fournisseurs ont commencé à anticiper la mesure en ralentissant la voilure en termes de commandes de bouteilles. Une situation qui pourrait à terme fragiliser toute une économie, selon Régis Banquet, président de l'agglomération de Carcassonne.
Si il y a plusieurs centaines de vignerons qui demain arrêtent leur activité, c'est plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Donc c'est vraiment un contexte économique très particulier et sur lequel il faut avoir une vigilance très forte parce que ça peut faire basculer l'économie dans une période de récession et une période très difficile.
Et dans le colis qui contient les bouteilles de vin, le président de l'agglomération de Carcassonne a également glissé un mot sur lequel on peut lire « Make wine, great again, comprenez, redonnez au vin sa grandeur ».
Un peu d'humour. Il est 18h04, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et tous les sports, Lionel Sabot.
Et à la une de l'actualité sportive, ce soir, la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est le grand jour pour le Grand Prix de Chine, Michael Gineski.
Mais oui, le départ qui vient à l'instant d'être donné à Shanghai, c'est l'Australien Oscar Piastri sur McLaren qui s'était lancé en pole position pour la première fois de sa carrière. Donc, il est parti devant la Mercedes de George Russell et l'autre McLaren de Lando Norris. Les McLaren qui espèrent de nouveau rester aux avant-postes une semaine, évidemment, après la victoire de Norris à Melbourne. Mais le reste du paddock va-t-il l'entendre de cette oreille ? Max Verstappen sur Red Bull est lui parti de la quatrième place. La Scuderia aussi a envie de briller. Après déjà la déconvenue en Australie, les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont élancés des 5e et 6e places. Hamilton qui a déjà réussi à gagner, on le rappelle, ce week-end la Sprint Race. Quant au Français Isaac Hadjar, il s'est bien élancé cette fois de sa 7e position acquise lors des qualifications après sa grande première où il avait manqué le départ en raison d'un accident dans le tour de formation. Bref, ce deuxième rendez-vous pourrait révéler l'intensité de la saison qui nous attend. Ça vient juste de débuter donc à Shanghai. On rappelle qu'au classement des pilotes à l'issue de la première manche en Australie, c'est Lando Norris qui occupe la tête du championnat du monde.
Ça vient juste de débuter. Je vous donne le classement à l'issue du premier tour. C'est Oscar Piastri qui est en tête devant Lando Norris. George Russell est troisième. Lewis Hamilton a gagné une place. Il est quatrième devant Charles Leclerc. Max Verstappen, lui, a perdu deux places. Il est désormais sixième. Quant à Isaac Hadjar, qui était septième sur la grille de départ, il est neuvième, juste devant un autre Français, Esteban Ocon.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et toujours au chapitre des sports mécaniques, encore 5 spéciales à courir au rallye du Kenya ce soir pour la 3e manche du championnat du monde. Pour le moment, le gallois Elfyn Evans sur Toyota est en tête devant les Hyundai de l'Estonien Ottanak et du Belge Thierry Neuville, le champion du monde en titre. Elfyn Evans a l'occasion de conforter son avance en tête du classement mondial devant Sébastien Ogier qui ne prend pas part à la totalité de la saison des rallyes et Kalle-Rovan Pera qui est en 3e position. Les sports co, à présent, on va parler football, bien évidemment, puisqu'on retrouvera demain l'équipe de France face à la Croatie. Ce sera en quart de finale, retour de la Ligue des Nations, Mickaël.
Les Bleus battus 2-0 à l'aller par les Croates vont devoir mettre les bouchées doubles pour reprendre l'avantage. Les tricolores sont sous pression s'ils veulent croire à la remontée fantastique. Le souhaitent-ils vraiment? Alors que le calendrier des clubs et des sélections est intense pour cette fin de saison, c'est ce que concède déjà avant la rencontre Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.
Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Tout ce qui a été préparation de match et jour de match dans le vestiaire, j'ai vu un groupe concerné et hyper motivé. Toutes les périodes internationales deviennent plus compliquées, forcément. Les enchaînements de matchs avant, avec des objectifs, oui, pas loin de 14-15 joueurs qui étaient concernés par des matchs dimanche, donc quand vous jouez jeudi, mais c'est le cas de mon homologue croate aussi, même si peut-être il a de très très bons joueurs, mais qui ont un temps de jeu qui est moins important par rapport au mien. Mais ça n'empêche, c'est un rapport de force. En étant dans la dernière ligne droite, et bien, avec leur club, ils ont des objectifs importants à atteindre à travers les Coupes d'Europe, les championnats, les Coupes nationales. Ce qui ne veut pas dire qu'on va banaliser cette double confrontation, évidemment.
Et en attendant, les Bleus ont donc bel et bien rendez-vous face à la Croatie. Coup d'envoi de la rencontre demain matin à 6h45 pour nous. Les autres affiches au menu, Espagne-Pays-Bas, deux équipes qui s'étaient quittées sur un nul à l'aller, 2 buts partout. Portugal-Danemark, les Danois mènent 1-0. Allemagne-Italie avec l'avantage à la Mannschaft, 2-1 au match aller.
On passe au rugby, Mickaël, avec la dernière rencontre. Et quelle rencontre de la 19e journée du top 14.
Ce sera un duel au sommet. Le leader, le Stade Toulousain, se déplacera sur le terrain de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles qui vient de perdre provisoirement la 2e place du championnat de France au profit de Toulon, large vainqueur aujourd'hui de Perpignan 40-19. En clair, les Girondins sont déjà sous pression, distancés pour le moment de 5 points par l'impérial Stade Toulousain. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné demain matin à 7h05 pour nous.
Le tennis, seuls 2 Français ont passé le 2e tour du Masters 1000 de Miami.
Et c'était moins une. On aurait presque pu croire que la Berezina se trouvait en Floride pour le camp tricolore. Hier, Gaël Monfils a arraché sa place au 3e deuxième tour. Aujourd'hui, Arthur Fils a bénéficié du forfait du Canadien Gabriel Diallo pour poursuivre l'aventure. Pour le reste, c'est fini pour Giovanni Mpetit-Péricard, battu par l'Australien Jordan Thompson, Hugo Humbert, battu par le Brésilien Joao Fonseca, Hugo Gaston, également battu par l'Italien Matteo Berrettini, 4-6, 6-3, 6-3. On avait déjà vu hier les éliminations de Quentin Alice, Corentin Moutet et Alexandre Muller. Plus que Fils et Monfils, donc sur les cours de Miami, Gaël Monfils qui sera opposé demain à l'Espagnol Raume Munyar, 56e mondial, déjà tombeur au tour précédent du redoutable russe Daniil Medvedev.
Allez, on en vient au sport en Calédonie. Tout d'abord, hors du territoire du football, la sélection A disputera demain la finale des éliminatoires à la Coupe du Monde pour la zone océanique.
Après la victoire 3-0 sur la Polynésie française, les Calédoniens seront opposés à la Nouvelle-Zélande qui a pour sa part corrigé l'équipe de Fidji 7-0. Les enjeux de cette finale, on les connaît désormais, un succès. Et c'est la place au mondial américain de 2026 qui est assurée. En cas de défaite, les Calédoniens bénéficieront tout de même d'une dernière chance en allant jouer des nouveaux éliminatoires de repêche, pour ainsi dire, contre des sélections nationales en ballotage pour tenter d'accéder à la prochaine Coupe du Monde. En attendant, le match Nouvelle-Zélande-Calédonie, ce sera à suivre sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland, sur les terres des Kiwis, à partir de 17h demain, heure de Nouméa.
Sur le territoire de la natation, avec un meeting qui se déroulait tout le week-end au centre aquatique de Coutiouf.
Ouais, depuis hier, près de 120 nageurs étaient au rendez-vous pour s'affronter sur toutes les distances. Pour les meilleurs des ambitions, se qualifier notamment pour les mini-jeux du Pacifique, des nageuses et des nageurs qui ont déjà confirmé à cette occasion leur performance, comme par exemple Manon Baldovini et Clara Delunel, toutes deux de l'Olympique de Nouméa Natation.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs parce qu'on cherche les qualifs au mini-jeu, mais la pression, elle est haute. Mais après, on a un bon club, un bon coach qui nous permet de relâcher et du coup, c'est super, on gère quand même.
Bah, avoir de la concurrence, c'est toujours bien, se tirer les uns et les autres pour atteindre nos objectifs, c'est bien quand même. Les mini-jeux, c'est l'objectif le plus proche, puis après il y a les championnats de France et après, bien sûr, Tahiti 2027, pourquoi pas.
Une sélection de nageurs pour les mini-jeux de Palau doit être donnée au CTOS dès demain par la Ligue calédonienne de natation.
Et puis parmi les rendez-vous du week-end, il y avait également du tir à l'arc, une double compétition avec là encore en ligne de mire les mini-jeux du Pacifique.
Oui, une double compétition hein, aujourd'hui sur le site de Dimbéa sur 50 mètres et 70 mètres, différents arcs et une vingtaine de participants au rendez-vous. Au milieu de la famille des archers, on retrouve de tout jeunes talents qui aiment la discipline et qui commencent de rêver d'échéances régionales, les mini-jeux ou en tout cas avec plus de certitude et plus loin, les Jeux de Tahiti. On les écoute.
Moi, je m'appelle Maël Fontaine, j'ai 16 ans, bientôt 17, puis surclassé en U21 en catégorie junior.
Moi, je m'appelle Léron Simone, j'ai 19 ans, je suis surclassé aussi en U21.
Moi, je m'appelle Mathéo Lecrache, moi, ça fait 8 ans que je fais du tir, et ouais, sport, c'est, vu que j'ai du tir depuis que je suis tout petit, c'est comme un endroit où j'ai grandi, quoi, c'est une genre de deuxième maison un peu.
On essaye de faire le plus qu'on peut pour pouvoir être éligible pour toutes ces compétitions internationales qui sont fortement intéressantes. L'opportunité d'y participer, ça serait vraiment incroyable.
On essaye de faire de notre mieux. Hein. Ce qui est bien avec ce sport, c'est que ça fait libérer l'esprit. Ça permet de penser à autre chose, s'évader un peu.
Je me dis, comme sur toutes mes compétitions, on est là pour tirer, on est là pour s'entraîner. On n'est pas là pour viser les scores. Bien sûr, c'est cool si on les fait. Mais on est surtout là pour faire ce qu'on sait faire et le montrer. C'est comme un système d'examen un peu. Et on voit si ça rentre ou pas.
Et la Ligue calédonienne de tir à l'arc qui espère notamment retrouver de nouveaux adeptes avec plusieurs clubs présents sur le territoire, notamment dans le Grand Nouméa. Si le nombre de licenciés a baissé, les licences découvertes représentent désormais une opportunité d'attirer un nouveau public.
On jette un coup d'œil au reste des résultats. En bref, Mickaël.
Oui, en point d'or, ce week-end, 950 participants qui étaient au rendez-vous du NEA City Trail organisé par Pro Events. Succès sur l'épreuve phare de 15 km de Jérémy Marie. Il y avait du kitesurf également, la deuxième étape du challenge Bureau Vallée hier. Victoire chez les jeunes de Raphaël Vamin et c'est Tom Hébert devant Phoebe Rocher chez les seniors qui l'ont emporté. Et puis en karaté, il y avait la coupe comité pupille et Benjamin tout au long du week-end, tandis qu'en judo, le championnat de Calédonie par équipe était de retour. La SPTT équipe 1 s'est imposée.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien cette nuit sur l'Est, l'extrême sud est dans une moindre mesure au Loyauté, sur la pointe nord. Des passages nuageux occasionneront quelques averses. Ailleurs, après dissipation des nuages et des averses parfois fortes en fin de journée, les nuits seront belles, avec peu ou pas de nuages. Le vent de secteur Est se rapproche des 10 nœuds et localement 15 nœuds sur la pointe nord. Il deviendra rapidement variable sur l'Ouest et peu d'évolution du côté des températures minimales qui resteront proches des normales de saison pour ce soir entre 21 et 25 degrés. Demain matin sur la côte Est, la pointe sud, l'île des Pins et les Loyautés, les passages nuageux qui circuleront s'accompagneront d'ondées. Sur la façade Ouest, le soleil dominera largement. L'alizé d'Est-Sud-Est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe Nord-Est. Sur la côte Ouest, le vent sera faible en fin de journée, puis les brises de Sud-Est s'établiront autour des 10 nœuds en fin de matinée.